Luc a pas de son, pas de volume. C'est bon.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci à ceux qui sont dans le hall d'entrée. On va commencer notre culte. Il y avait plus de monde encore dans le hall que dedans, je crois. Mais on veut commencer à l'heure et c'est déjà trop tard. Voilà, doigts, parfait.
Hein. C'est vos doigts que je parle.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous visitent particulièrement, bienvenue à ceux qui seraient là pour la première fois. Bienvenue à toutes et tous. Je suis content de vous voir ce matin. J'ai déjà une première annonce avant qu'on rentre vraiment dans l'aspect culte. Je vous fais juste penser à après, puis après on revient. C'est le repas de midi. Hein. Il y en a déjà qui se disent, mais qu'est-ce que je vais manger à midi? Et peut-être que vous avez loupé qu'on pouvait manger ici à midi. Alors, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas pu s'inscrire et qui aimeraient manger? Voilà, les jeunes là, c'est trop beau. 4, 6...
Derrière toi, Luc.
Voilà.
Justin derrière.
Justin, dans l'aquarium là-bas. 7, Justin. Ok. Bon, une bonne dizaine, mais voilà, même si y a toujours assez. Non ?
J'arrête, non ?
Ah, il s'inscrit. Oh, pas mal. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est Raphaëlle qui prépare tout ça pour nous. Et puis, du coup, à la fin du culte, je vous demanderai d'empiler les chaises pour qu'on puisse mettre des tables. Voilà, maintenant on va vivre ce qu'on a à vivre ce matin, et puis on s'en réjouit, et j'aimerais commencer avec le verset 2 du psaume 81, qui dit « Ceci, chantez avec allégresse à Dieu, notre force. » Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Et j'aimerais vous encourager à déclarer encore ce soir que... Ce soir. Ce matin, tout va bien, dimanche matin, 5 octobre, que Dieu est notre force. Et puis, est-ce qu'il l'est pour vous? Ok, vous êtes là? Ok, super. Alors, on va déclarer ça ensemble, on va chanter ensemble. Je vous invite à vous lever. Et puis, voilà, on a parlé plusieurs fois de la louange. Et bien, que vous puissiez être libre dans ce temps de louange. Que vous puissiez aussi, même si vous vivez une situation un peu plus difficile dans votre quotidien, que vous puissiez réussir à élever le nom de Jésus au-dessus de votre situation. Et vraiment avoir Dieu à l'œuvre. Voilà, que je prie simplement. Seigneur, merci pour ce temps de culte ce matin. Merci parce que tu es notre force, tu es notre Dieu. Et on veut te louer, t'adorer. Merci pour ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Et nous, on veut être là pour élever ton nom, oui, parce que tu mérites notre adoration. Merci de bénir le plus petit jusqu'au plus grand dans ce lieu. Celui qui pour qui tout va bien, celui qui est dans la souffrance. Merci parce que tu as une parole pour chacun. Merci parce que tu rejoins chacun, tu nous connais. Et on te bénit pour cela. Merci mon Dieu. Amen.
Amen. Bonjour. Adieu. Voilà, voilà. J'avais l'image d'un bateau un peu qui navigue dans la tempête parce que j'ai lu la fin des Actes ce matin. Alors ce bateau qui est dans la tempête, des fois on s'inquiète pour les choses et des autres. Pour la santé, enfin pour, on a de toute manière des bonnes raisons de s'inquiéter. Puis quand on n'a pas de bonnes raisons, on trouve des bonnes excuses de s'inquiéter. Et puis j'avais cette image comme ça d'un navire dans la tempête où on se met tous ensemble et malgré la tempête, on prie et on loue ensemble. Pour arriver à bon port, bien entendu, quoi. Parce qu'on sait tous où on va. On a l'assurance de la destination qui nous attend. Et oui, oui. Ok. Je vais compter sur vous ce matin pour chanter. Je sors d'un virus, donc que je nommerai pas. Il ne mérite pas. Je compte sur vous pour chanter, pour accompagner aussi Marie et puis toute l'équipe.
Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi.
Amen, amen. Nos cœurs.
Cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Ton cri soit comme un hymne. Ton nom retentisse, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi.
Au cœur,
Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour.
Parce qu'il est au milieu de nous.
Amen, amen, nos louanges montent vers ta demeure, Seigneur.
Alpha et Omega, roi des rois. les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté.
Vous pouvez rejoindre vos petits groupes respectifs dans la joie, la bonne humeur. Et puis les plus grands, vous pouvez rester avec nous pour continuer à louer dans la joie, la bonne humeur.
Nous voici par grâce. grâce, nous voici. Ta grâce, nous voici. Ta grâce, nous voici.
Tellement reconnaissant de ton amour inconditionnel envers nous. Reçois nos chants, reçois notre louange, notre adoration. Reçois aussi nos cœurs, nos difficultés. Tu les entends, tu les reçois, tu les portes aussi. Seigneur, on veut fixer nos regards sur toi. Tu es la source de notre foi, Seigneur Jésus. toi et notre confiance, Seigneur. Et par ton amour immense, nous ne tremblerons pas.
Confiance.
déclarer ce matin que nous ne tremblerons pas. On veut déclarer ce matin qu'on met notre confiance en l'Éternel. Et je t'invite à vraiment le déclarer alors que tu as chanté ces paroles, alors que peut-être les choses autour de toi, tes circonstances peuvent te faire trembler. Et c'est ça, cette louange qui monte à l'Éternel en toutes circonstances, c'est ça, c'est déclarer notre confiance et de prendre cette position debout, cette position debout, bien enracinée dans la parole de Dieu, avec ses racines qui vont chercher la source d'eau pour que notre feuillage reste vert, même dans les moments difficiles, même dans un désert. Alors on veut redéclarer au Seigneur que oui, on lui fait confiance, que nous ne tremblerons pas. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe aujourd'hui et quoi qu'il advienne demain, on veut vraiment se positionner et le dire à l'Éternel, oui, on te fait confiance, mais on veut aussi le dire à l'ennemi. Eh bien, il n'arrivera pas à nous déraciner, il n'arrivera pas à nous faire coucher, il n'arrivera pas à nous faire tomber. Nous sommes debout, un peuple debout pour Dieu, pour le Seigneur, notre Dieu. Et c'est en lui que nous plaçons notre confiance ce matin. Alléluia. Amen.
Trompé de tonalité, vous avez chanté, vous avez bien chanté. C'était vraiment haut. Ouais, je dois quand même vous le dire.
Quelle foi!
C'est pas un problème. La tonalité, ce qui compte, c'est ce qu'on a pu déclarer ensemble. Et si tu peux juste te tourner vers ton voisin puis lui dire nous ne tremblerons pas ce matin. Nous ne tremblerons pas. Profite de vous. Saluer quelques instants. Alors, ce matin, on aura justement maintenant quelques témoignages. C'est notre petit temps de témoignage et ça peut être l'occasion de dire... peut-être qu'il y a une situation qui aurait pu vous faire trembler et que vous avez pu voir comment le Seigneur vous en a délivré, comment le Seigneur a manifesté sa grandeur. Donc je rappelle ce petit temps de témoignage, c'est maximum 3 personnes, maximum 3 minutes et puis, par témoignage, et puis quand même, et puis un témoignage récent, quelque chose qui peut encourager toute la communauté, qui rend gloire à Dieu. Alors si il y a une personne qui a, ou l'autre qui a envie de se lever ce matin, enfin j'ai déjà une personne, c'est Marie, bienvenue. Et puis pendant ce temps, ben, ça peut permettre à d'autres de se préparer. Bienvenue Marie.
Bonjour. On a eu l'éco-échange ce week-end. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le vendredi, les gens amènent les affaires pour enfants qu'ils n'utilisent plus. Et nous, on transforme l'escale en boutique. Et le samedi, n'importe qui peut venir se servir puis prendre gratuitement ses affaires. Vraiment dans l'idée d'un grand partage. Et le solde des affaires qui restent, on le donnait à chaque fois à une association. On essayait de trouver de différentes associations. Et en fait, cette fois-ci, eh ben, on n'a trouvé aucune association qui nous récupérait ces affaires. Tout est plein, plus personne n'a de place, y a tout qui déborde. Donc, toutes les associations auxquelles vous pensez maintenant, on leur a demandé pendant des semaines. et du coup, en fait, les quatre responsables, on s'est dit, ben, on va prier pour que tout soit pris. Donc on avait quand même des associations, ils sont souvent d'accord de prendre les habits et les jouets, mais tout ce qui est gros, donc les poussettes, les parcs, les lits, les maxi-cosy, les sièges auto, tout ça, on n'a personne qui nous le prenait et notre seule solution, c'était de les amener à la déchetterie. Et ça nous faisait vraiment mal au cœur déjà, on se dit ouais, on est écolo et on va jeter tout à la déchetterie parce que même la ressourcerie, ils ne veulent pas. Donc ça nous faisait mal au cœur et ça fait, ouais, je pense, une semaine qu'on prie pour que tout soit pris. Et tout a été pris. Donc merci Seigneur. Ouais. On a juste eu une chaise haute qui est restée, mais qui était vraiment en mauvais état. Donc de toute façon, soit c'était un menuisier, soit c'était le recyclage. Mais tout le reste a vraiment été pris. Donc on était très reconnaissants. Merci beaucoup. Merci encore à tous ceux qui ont donné aussi. Et j'ai convenu avec Luc que je profitais de vous faire une pub. Maintenant que l'éco-échange est fini, nous allons avec Anne-Sophie et Laurence faire une petite chorale pour les enfants de 8 à 14 ans. Donc l'idée c'est de venir le dimanche matin et au lieu d'aller dans le groupe d'enfance, vous venez avec Laurence, Anne-Sophie et moi et on répète des chants 6 dimanche matin et on va aller chanter une fois ici à l'escale dans le temps de Noël, une fois à la soupe sur la place de la gare et une fois on va dans un EMS. Je voulais juste vous dire pourquoi un EMS. L'année passée, ma grand-maman était dans un EMS à Noël et on devait aller la chercher pour fêter Noël. Et elle a été malade, elle était en quarantaine, elle ne pouvait pas sortir. Et je suis allée quand même le 25 vers 11h30 dans cet EMS pour lui apporter des petits bricolages des enfants. Je me suis dit que ça, je lui ferais un petit coucou quand même, même si je ne pouvais pas approcher. Et en fait, je suis entrée dans cet EMS. Et c'était d'un triste, mais vraiment d'un triste. Déjà, il y avait presque tout le monde. Je pensais vraiment que les gens allaient aller dans leur famille ce jour-là, mais en fait, non, il y avait vraiment beaucoup de résidents. Et puis, il n'y avait pas de bruit, c'était très silencieux, quelques décos, mais c'était vraiment l'ambiance lourde, pesante. Le personnel infirmier qui était là, ben, personne ne connaissait ma grand-maman, parce que c'était que des remplaçants qui étaient là pour que le personnel puisse fêter Noël. Et j'ai vraiment eu mal au cœur. Et avec Anne-Sophie, on s'est dit, mais si on peut, alors c'est sûr, on ne va pas révolutionner tous les 25 décembre dans tous les EMS, mais si on peut aller juste un après-midi et puis vraiment parler de ce que c'est Noël, on va vraiment chanter des chants de louange avec les enfants et puis vraiment juste remonter le moral de ces gens. Et peut-être que ouais, ce jour de Noël, ben, il sera un peu différent pour eux si on va donc le 23 décembre l'après-midi, non le 21. 21 décembre l'après-midi pour leur parler de Jésus. Et dans cet EMS-là, il y a aussi un résident qui s'appelle Samuel Grandjean. Ouais. Et du coup, on a aussi envie de lui rendre hommage. On va apprendre quelques-uns de ses chants. Puis on a vraiment envie aussi d'aller chanter pour lui remercier de tout le travail qu'il a fait pour les enfants jusqu'à maintenant. Donc s'il vous plaît, inscrivez vos enfants entre 8 et 14 ans. Ce serait hyper cool. On commence après les vacances d'octobre. Merci.
Merci Marie. J'ai pas regardé le chronomètre, mais c'était pas mal. Hein. Deux choses en une. Je crois pas qu'elle a dépassé 3 minutes. C'était super. Merci Marie. Juste pour la petite blague, ce matin à 9h moins un quart, comme ça, il y a un jeune garçon qui arrivait avec sa maman, qui parlait pas très bien français, puis ils arrivaient avec des sacs. Et puis ils m'ont dit, il y a des jouets aussi aujourd'hui. Et puis j'ai dû dire, ben non, la prochaine fois sera le mois de janvier. Mais pour dire l'impact que ça a, et bien sûr, c'est important aussi de penser à toutes ces personnes qui ne parlent pas français, pas bien, mais des fois ils ont de la peine à saisir, à comprendre le bonjour, etc. Mais voilà, merci pour ce qui a été fait hier et bravo à toute l'équipe, vraiment. On va encore les applaudir parce que c'est un immense boulot. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a un deuxième témoignage ? Maryse et Sylvie, ben c'est bien, on aura nos trois témoignants aujourd'hui. J'ai peut-être inventé un mot, je ne sais pas.
Ben bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous voir tous rassemblés ici. Alors jeudi, avec un groupe de 10 personnes de l'escale, nous sommes allés visiter Marie-Jeanne de Lesserre. Vous la connaissez ? Donc, elle nous a beaucoup touchés par son témoignage. Parce que d'abord, elle vous remercie pour toute l'attitude que vous avez eue, cette attitude d'amour, combien vous l'avez entourée dans cette période de vie où elle avait mal, et puis elle a dû déménager, prendre des décisions rapides. Et là, elle a retrouvé un petit cocon dans l'endroit où elle habite, et elle continue à bientôt 80 ans son ministère. Et son ministère, c'est un grand ministère où chacun et chacune en est appelée, moi la première, de faire le bien autour de nous. Et Marie-Jeanne, elle a trouvé des gens avec qui elle s'est alliée, avec qui elle va pour consoler, pour entourer, pour boire un café, pour faire une visite, pour tricoter. Et ça m'a donné du courage de voir que tout continue. Merci à vous tous pour le bien que vous lui avez fait et pour les prières aussi qui l'ont accompagnée.
Merci. Voilà. Donc, pour ceux qui ont dit non, Marie-Jeanne Delesserre était à l'escale plusieurs années et puis elle a déménagé dans la région d'Oron. Et puis, c'était vraiment une... C'est une femme pétillante qui a toujours eu un cœur pour Dieu. Elle était aussi missionnaire des années, mais elle reste missionnaire parce que, comme on dit, la mission, elle est partout. Elle est aussi ici. Alors voilà, merci pour Marie-Jeanne. Sylvie, à ton tour, tu arrives à monter la marche. C'est pas la montagne de l'Éternel, mais...
Alors moi, j'aimerais rendre le gloire au Seigneur parce que mardi, j'ai eu un accident avec mon véhicule. Je suis arrivée dans une voiture et j'ai eu le coup du lapin. Et j'ai fait une commotion et j'ai dû être surveillée toute une nuit. Mais merci Seigneur, parce que j'ai aucune séquelle, aucune fracture, rien.
Merci beaucoup. Voilà. Alors, on est reconnaissant pour sa protection, pour Sylvie qui a un petit véhicule électrique. Peut-être voilà la croiser de temps en temps entre Corcelles et Yverdon. Avec un gilet jaune, hein, normalement, mais parfois ça ne suffit pas. Donc voilà, on est heureux que tout soit bien passé, qu'elle ait été protégée. Merci pour ces témoignages, ces encouragements. Et on va passer à la suite, on va passer à la parole de Dieu. Et c'est Mathias Renoux ce matin qui va prêcher. Donc Mathias, vous avez peut-être vu un petit mail passer. On l'a engagé comme stagiaire dans cette année scolaire. C'est sa troisième année aussi à l'école biblique Startup Ministries. Même année que Rachel, et puis donc il nous rejoint, il a déjà fait 2 ans de stage à l'église Connexion, et puis il avait aussi le désir de voir un autre contexte. Alors on espère qu'on sera tout aussi encourageant que ces 2 premières années, voilà, et puis que ça puisse l'aider à grandir dans l'appel qu'il a reçu. Donc bienvenue Mathias. Donc Mathias, il est aussi responsable du groupe de jeunes, donc c'est une de ses tâches dans ce stage aussi avec d'autres, hein. Il y a un noyau de responsables, il y a aussi sa femme Noémie, voilà, jeune mariée depuis le 23 août dernier. Voilà, je ne vais pas tout dire, mais il est là et on va se concentrer sur la parole de Dieu. Père, je te remercie pour Mathias. Je te demande de le remplir sa bouche ce matin, de lui permettre d'être à l'aise, d'être convaincu et convaincant. Que tu déposes ta sagesse, que ton Esprit Saint le remplisse maintenant et que, Seigneur, tu puisses ouvrir nos cœurs afin que cette parole puisse vraiment entrer dans nos cœurs, pas dans nos têtes, pas dans notre intelligence seulement, mais jusque dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci. Super, la technique marche. Alors bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très très plaisir d'être ce matin devant vous, d'avoir l'honneur de pouvoir un peu vous partager ce que j'avais sur le cœur cette semaine. Alors oui, c'est mon premier message en tant que pasteur stagiaire dans cette église, mais vous m'avez peut-être déjà aperçu une fois ou l'autre dans le cadre de mon engagement à ADN, le groupe de jeunes. Mais voilà, là c'est un petit peu nouveau. Donc j'espère que vous allez être intéressés par ce que j'aurai à vous partager. Alors, la semaine passée, il y a Luc qui nous a fait une superbe prédication sur la louange, aussi dans les temps difficiles. Ceux qui étaient là, vous vous en rappelez ? C'était cool comme prédication, hein ? Eh bien, moi, ça m'a un petit peu inspiré, et puis ça m'a travaillé sur un sujet qui me travaille en fait depuis longtemps, et du coup, j'ai voulu un peu continuer sur cette lancée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Job. Alors, le livre de Job, c'est un livre peut-être un peu particulier dans la Bible, il est assez unique, c'est un ovni. On ne le lit pas forcément toutes les semaines, il fait un peu peur, 42 chapitres, ouïouïouï. Et puis c'est pas Ésaïe où on peut trouver des paroles édifiantes et presque à toutes les pages. Donc c'est un livre peut-être un peu compliqué. Moi, mon espoir ce matin, c'est que je vais réussir à vous captiver et à vous donner envie de découvrir les richesses qui sont enfouies dans ce livre. Parce que s'il a été mis dans la Bible, et si on le lit depuis des milliers d'années, c'est parce qu'il y a une véritable richesse dedans. Alors il faut peut-être un petit peu creuser, il faut peut-être un petit peu s'ouvrir pour réussir à choper ces perles, mais je crois qu'on peut y arriver. Et je vais peut-être essayer de vous aider un tout petit peu ce matin. Alors le livre de Job, il est souvent qualifié du livre le plus injuste de la Bible. Le livre le plus injuste de la Bible. Et pourtant c'est un livre de sagesse. Vous savez que la Bible qu'on utilise, elle est divisée en plusieurs parties, puis il y a cette troisième partie qui sont les livres de poésie et de sagesse, aux côtés de l'Ecclésiaste, du Cantique des Cantiques, des Psaumes et des Proverbes. Et on se dit, mais comment un livre de sagesse peut être aussi injuste et quand même est censé nous apporter quelque chose, nous apprendre à être plus sages? Il y a déjà un petit paradoxe à ce stade-là. Mon espoir, c'est de pouvoir un petit peu creuser, rentrer et de se poser la question, est-ce que ce livre est vraiment si injuste que ça ? Alors peut-être que ceux qui n'ont pas lu ce livre depuis longtemps sont un peu intrigués, peut-être vous ne vous rappelez pas tout à fait de comment l'histoire de Job se déroule, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu cela, on va faire ensemble un petit tour, un petit survol de l'histoire de ce livre. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas être très très long, mais il faudra quand même que vous restiez avec moi. Alors premièrement, un petit peu de structure, ça aide à comprendre. Il y a quatre grosses parties principales dans le livre de Job. Le premier chapitre, c'est un prologue en prose, ça veut dire que c'est écrit comme on parle dans la vie de tous les jours. Ça permet de poser le décor, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe, qui est Job, et puis comment l'histoire se lance. Ensuite, les chapitres 2 à 37, ce sont des dialogues, c'est-à-dire que chaque intervenant va parler pendant très longtemps, alors c'est des phrases plus longues que ce qu'on a l'habitude de faire nous, et puis ils vont se parler les uns les autres, et tout ça c'est en poésie. Donc la poésie, ça je ne dois pas vous expliquer, Maître Corbeau sur son arbre perché, vous connaissez. Ensuite, chapitre 38 à 41, c'est un monologue divin, c'est-à-dire que c'est Dieu qui prend la parole directement, et sur quatre chapitres, il va prendre la parole et répondre. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ? On verra ça plus tard. Et ensuite, le dernier chapitre, le 42, c'est l'épilogue, c'est-à-dire la conclusion qui nous explique comment se termine l'histoire. Voilà, comme ça, vous avez déjà un peu la structure. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse directement plonger dans la parole. Si vous avez une Bible ou un téléphone avec une Bible, je vous encourage à l'ouvrir. Il y aura un certain nombre de versets bibliques qui vont être cités. Et on va commencer par le début, Job 1, verset 1. « Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. » Alors là, ça pose le décor. Un seul verset, on apprend déjà beaucoup de choses. Et la chose la plus importante que vous devez retenir, c'est que Job est intègre et droit. Autrement dit, il est juste. Il n'a pas péché. Très important. N'oubliez pas ça. Donc là, je vous ai mis des petites illustrations que j'ai trouvées jolies. Job, il est tranquille. C'est un homme qui est riche. Il a beaucoup de bêtes. Il a une grande famille. Il a une femme qu'il aime. Il a tout ce qu'il peut rêver d'avoir. Il est véritablement béni de Dieu. Donc ça nous pose le décor. Et là, il y a quand même quelque chose de spécial qui va se passer. C'est qu'il y a Satan qui va venir dans un concile de Dieu. Donc il y a Dieu qui réunit les anges chez lui, dans son palais. Et là, il y a Satan qui rentre et qui commence à lui parler. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Alors, d'abord, c'est l'Éternel qui parle à Satan, qui lui dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répond à l'Éternel « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ?» Vous voyez, c'est comme dans le jardin d'Éden. Le Satan, il commence, il pose des questions comme ça, un petit peu bien senties. Est-ce que c'est vraiment désintéressé ? Ou alors est-ce que c'est parce que tu l'as béni de toutes ces richesses qu'il t'aime ? Et là, il y a Satan qui va faire un pari. Il va dire « Si tu me laisses enlever tout ce que tu as donné à Job, je suis sûr qu'il va arrêter de t'aimer et qu'il va te maudire. » Et là, il y a Dieu, contre toute attente, qui dit « Ok, tu peux tout lui prendre. Sa richesse, sa prospérité, sa famille et même sa santé. » Alors Satan va se déchaîner. Et là, c'est littéralement l'enfer sur terre pour Job. Coup sur coup, en quelques minutes, il va tout perdre. Ça commence par son bétail, par ses récoltes, ensuite par ses enfants. Là, je vous simplifie, mais il y a un deuxième dialogue, et ensuite, sa santé. Il va avoir une maladie de peau qui est très douloureuse, qui gratte, et il est vraiment tout en bas. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ça vous rappelle une musique ? Tu donnes et tu reprends. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Job n'a pas péché. Il pêche toujours pas. Il reste juste. Donc là, c'est compliqué. Job a tout perdu. Tout ce qu'il reste à Job, c'est sa foi. La foi en le même Dieu qui est responsable de lui avoir fait perdre tout le reste. Je vous rappelle que Dieu était d'accord avec le pari lancé par Satan. Il a autorisé Satan à tout lui prendre. Alors là, ça nous lance. On est encore au premier chapitre. C'est déjà difficile. Alors, maintenant, on arrive dans la partie des dialogues. Il y a les trois amis de Job qui arrivent. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuar et Tsophar de Nama. Ouais, c'est des noms un peu particuliers, je nommerai pas mon enfant comme ça. Mais voilà, il y a les trois amis qui arrivent et ils commencent par se taire pendant 7 jours. Parce que Job, il est assis sur son tas de cendres, il utilise des morceaux de poterie pour se gratter et ils ont tellement peur, honte de lui parler, tellement c'est dur ce qu'il vit, ils se taisent pendant 7 jours. Et après 7 jours, Job prend la parole. Pour être honnête, il va se plaindre pendant un chapitre complet, voire deux. Et les amis, tour à tour, vont venir parler à Job. Et ils vont essayer de répondre à cette question, qui est la question centrale qui traverse tout le livre de Job. Pourquoi un homme juste peut-il souffrir ? Comment ça se fait ? Et ils vont tous essayer d'apporter leur réponse à cette question. Alors, je vous fais un petit résumé d'à peu près 30 chapitres en une slide. J'espère que ça vous facilite la vie. Je remets juste le temps, voilà, comme ça je finis pas trop tard. Alors, Eliphaz, il a une thèse. Dieu punit uniquement les coupables. Donc, si tu souffres, c'est que tu as péché. Or, on sait que c'est faux. Le prologue nous annonce que Job est innocent, il est juste, intégré droit. Donc on sait que Eliphaz se trompe. Bildad, lui, il dit, ok, c'est peut-être pas toi qui as péché, mais peut-être que c'est tes enfants. Et par association, tu es puni également. On sait aussi que c'est faux, parce que c'est écrit que Job faisait des sacrifices pour ses enfants au cas où ils aient péché. Donc on sait que c'est pas ça non plus. Et le dernier de Tsophar, il dit, bon, tu sais peut-être pas pourquoi tu as péché, c'est pas grave, demande pardon quand même. Demande pardon, repens-toi, comme ça au moins c'est fait. Donc c'est un petit peu la religiosité sans réflexion. Ils ont chacun leur petite théorie. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit exactement ce dont Job a besoin en ce moment. Là, vous voyez sur l'illustration, on voit les trois amis qui pointent Job du doigt pour l'accuser. Et ça m'est venu comme réflexion de dire, avec des amis comme eux, qui a besoin d'ennemis? Franchement. Non, ils font déjà très bien ce rôle. Alors Job, il n'est pas content. Et on sent que dans sa réponse, au fur et à mesure, il passe de la tristesse, de la peine, et il va de plus en plus monter un petit peu dans l'amertume, dans la colère. Il va s'énerver contre ses amis, il leur dira, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Il s'énerve. Et puis, il va évidemment terminer par ne plus les écouter du tout. Au début, il y a un peu de cohérence dans le dialogue. À la fin, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds. Ils ne répondent même pas à leurs propres arguments. Bon, ça finit en dialogue stérile. Et à un moment, Job va avoir une idée un peu audacieuse. Il voudra dire, j'ai envie de plaider ma cause devant Dieu. Parce que lui, il sait qu'il est juste, il sait qu'il est innocent. Donc, il veut traîner Dieu au tribunal. Pour lui dire « Pourquoi tu me fais souffrir alors que moi je suis innocent ?» Alors, je vous montre un petit peu une autre slide pour résumer. À gauche, c'est le point commun de tous les amis. Ils disent « L'univers est prédictible. » C'est simple. Les justes sont bénis. Les méchants sont punis. C'est simple, c'est logique. Sauf que c'est faux. On remarque bien que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas si simple. Et Job, peut-être qu'il tenait cette pensée au début, mais quand il souffre, quand il est au fond du trou et qu'il sait qu'il est innocent, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Si moi je suis juste et que je souffre, c'est peut-être Dieu qui est injuste. Alors les amis disent que Job se trompe. On ne peut pas accuser Dieu comme ça, ce n'est pas possible, c'est le Créateur, le Tout-Puissant, on ne peut pas accuser Dieu. Alors peut-être que c'est Job qui est mauvais. Et là, il commence à taper un peu en dessous de la ceinture. Non mais toutes tes richesses là, c'est peut-être parce que tu as opprimé les innocents. Ça vient d'où tout ce bétail? Tu ne l'aurais pas volé par hasard? Ça tape un peu en dessous de la ceinture. Hein. Ça fait mal. Alors Job veut traîner Dieu au tribunal. Ça escalade. C'est de plus en plus difficile. Et puis on arrive au bout de ces à peu près 30 chapitres de dialogue, la tête grosse comme une patate. Et on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir un peu une réponse claire. Alors là, il y a un nouvel arrivant qui arrive sur scène, il s'appelle Elihu. Elihu, on n'en a pas entendu parler jusque-là. C'est un personnage qui était présent depuis le début. Il a écouté le discours de Job et de ses amis, et il s'est tu. Il a juste écouté, il regardait. Et vu qu'il voit que ça tourne en rond, que c'est un petit peu stérile, il va prendre la parole. Il va dire « Laissez-moi parler maintenant. » Et lui, il pense avoir tout compris. Alors, c'est bien, il arrive avec une idée un peu fraîche, un peu nouvelle, et il propose une nouvelle théorie qui prétend apporter la réponse à cette question « Comment un homme juste peut-il souffrir ? Pourquoi ?» Alors, voici sa thèse. Job n'a pas péché. Ça, il est d'accord. Bon, au moins, il est d'accord avec Job là-dessus. Job n'a pas péché. Par contre, s'il souffre, c'est parce que Dieu veut le prévenir d'une erreur qu'il va commettre dans le futur s'il n'est pas puni avant de la faire. C'est un petit peu alambiqué comme réflexion. Hein. Ouais. Non, faut s'accrocher. Il est jeune, Elihu. Hein. C'est marqué qu'il est jeune, que c'est pour ça qu'il n'a pas parlé. On ne sait pas quel âge il a, peut-être 15 ans, peut-être 30 ans. Mais bon, c'est alambiqué. Et oh, j'ai pris ça trop tôt. Voilà. Une petite citation, c'est Elihu qui dit ça. D'ailleurs, c'est une citation qui est relativement beaucoup utilisée dans les églises. En tout cas, je l'ai déjà vu quelques fois. Dieu parle une fois, deux fois, et on n'y prend pas garde. Il parle par la douleur pour détourner l'homme du mal. On voit la thèse d'Elihu. Hein. Donc, en fait, c'est parce que peut-être il t'a déjà prévenu une ou deux fois, t'as pas fait gaffe. Bon, bah maintenant, il tape un peu plus fort. Et là, Dieu finit par répondre. On arrive dans la partie du monologue divin. On se dit, ok, Dieu prend la parole, c'est super, il va enfin mettre un peu de clair dans ce chenil. Et il dit à Job, où étais-tu quand je fondais la terre ? Ok, donc Dieu, il arrive, il répond pas tout de suite à la réponse. C'est pas grave, il répondra peut-être plus tard. Mais il affirme qu'il est grand. C'est lui le créateur de l'univers. On peut pas commencer à faire plein de théories, à l'accuser, c'est pas possible. Et Dieu va faire quelque chose d'assez magnifique. Il va faire une espèce de présentation. On ne sait pas si c'est Job qui a été emporté, de la même manière qu'Ézéchiel a pu être emporté, on ne sait pas si c'est des visions, mais il va parler à Job et lui présenter un peu toute la création, tout l'univers. Il va s'arrêter en particulier sur deux créatures particulières dont on parle presque que dans le livre de Job, le Béhémoth et le Léviathan. Ce sont des créatures un peu spectaculaires, en tout cas leur description fait un peu peur. Puis on se demande si ce n'est pas un langage poétique pour parler d'un hippopotame et d'un crocodile. On n'a pas de certitude. C'est quand même mis que le crocodile, il a du feu qui lui sort de ses narines. Donc bon. Et après, il va faire, voilà, ça je vous ai mis des illustrations pour que vous puissiez un peu vous... Moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Je m'imagine ce qu'a dû voir Job, c'est contempler la belle création. Regardez-moi ces jolis tableaux. Les montagnes, les rivières, les couchers de soleil. C'est beau, hein ? Jérusalem, depuis le mont des Oliviers. Waouh, hein ? Je lui dis, c'est magnifique ce qu'il a dû voir Job. Mais bon, dans tout ça, je ne suis pas sûr qu'il ait eu sa réponse. Hein. Enfin, je ne sais pas, vous avez une réponse ? Vous êtes convaincu par ce que Dieu a dit ? Là, vous avez la réponse ? Pourquoi le juste peut-il souffrir ? Pas encore, hein ? Donc le message de Dieu, c'est quoi ? L'univers est infiniment plus grand et plus complexe que ce qu'un homme peut comprendre. Donc il assure sa dominance, Dieu, sa souveraineté, et il ramène l'humain à sa place juste, une place qui est digne, mais qui reste à son niveau, à son échelle. Et là, il y a Job qui répond à l'Éternel. On est dans le chapitre 42, le dernier, l'épilogue. Il dit « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. » De merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Pour moi, c'est le texte clé du livre de Job. On voit Job qui revient à une humilité toute simple. Il reconnaît la grandeur de Dieu et cette phrase absolument magnifique. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il passe d'une connaissance, j'ai envie de dire d'ouï-dire, de Dieu. Peut-être que sûrement que son père avait la foi et connaissait Dieu. Il lui a instruit, dire qui est Dieu, il est grand, il a créé l'univers. Et là, il a eu une rencontre avec Dieu, Dieu qui lui parle. Alors bon, Dieu n'a pas été non plus tout sympa avec lui, hein. Il l'a quand même un peu repris. Il a pu voir des choses magnifiques et il se dit « Waouh, maintenant, écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » On est dans une dimension toute différente. Job, il rentre dans une relation avec Dieu. Et ça, c'est super beau. Dites-vous bien, on est dans l'Ancien Testament. Le texte de Job, il est très très ancien. Et on a déjà cette vision d'avoir une relation avec Dieu, plus que de la religiosité, plus que des sacrifices, plus que des préceptes. Je trouve ça très beau. Job se repent alors qu'il est innocent. Donc il ne se repent pas de la même manière que, si vous vous rappelez, Tsophar de Nama lui disait « Ouais, vas-y, demande pardon, tu ne sais pas pourquoi, mais vas-y. » Il ne se repent pas de ça. Il se repent par humilité vis-à-vis de Dieu. Il se repent de sa petitesse et face à la grandeur de Dieu. Ensuite, on aura quelque chose de moins poétique, mais le verdict divin. Et là, c'est un petit peu... Ah, ça prend un petit peu de... Je crois que ça ne marche plus, ce n'est pas grave, si tu arrives à passer à la prochaine. Il va passer au verdict divin, et là, c'est la surprise. Ouais, tu peux encore passer à la prochaine. Voilà. Job, il est reconnu juste devant Dieu. Dieu dit, Job, tu n'as pas péché. Waouh. Moi, je trouve ça un peu bizarre, parce que j'ai fait la comptabilité, et il a traité Dieu d'énervé au moins 4 fois. Il a dit que Dieu était violent, rancunier. Il a dit qu'il était inutile. Il a dit que c'était son ennemi. Oh là là, je me suis dit, ça allait chauffer pour Job. À la fin, non, Job n'a pas péché. Il a fait ce qui était juste. Par contre, vous, Eliphaz, Bildad et Tsophar, vous m'avez irrité. Vous avez fait ce qui était faux, alors qu'ils ont passé leur temps à défendre Dieu. Waouh, c'est extrêmement confusant. C'est extrêmement confusant. Ça fait des années que je creuse le livre de Job. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Je ne comprends pas. Alors, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin sur, ça c'est, voilà, Job qui est restauré, tout va bien. Je vais dire quand même rapidement, Job, il va récupérer 2 fois plus qu'il avait auparavant, sauf ses enfants. Il en avait 10, il va en récupérer 10. Mais voilà, il est restauré, il a tout ce qu'il faut. Il a vécu encore 140 ans après ça et il est mort rassasié de ses jours. Happy ending, n'est-ce pas? Ok, alors, les contradictions, on va un petit peu creuser là-dedans. Et je pense qu'à ce stade du message, il faut que je rappelle, Job n'est pas le seul juste souffrant. Il y en a d'autres dans la Bible. Il y en a beaucoup même. Mais le plus grand juste souffrant, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Joseph, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même, qui était juste, qui n'avait commis aucun péché, et qui est mort sur la croix, à cause de nous. D'ici à dire que l'histoire de Job est une espèce d'archétype, de préfiguration de Jésus, on peut le dire, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que, je pense, le message qu'on peut comprendre aussi de ce livre, c'est que si Jésus, il a traversé toutes les épreuves qu'il a eues, la croix, le fouet, alors qu'il était juste, eh bien, ça veut dire que, peu importe ce que nous, on traverse, Jésus, lui, il l'a traversé avant nous. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Aucun de nous n'est juste. Lui l'était, et il a traversé bien pire que nous. Et ça, je pense que c'est un réconfort. Alors pourquoi Job a-t-il souffert ? J'ai répertorié 5 réponses à cette question dans le livre de Job. 5. Premièrement, dans le prologue, à cause du pari de Satan. C'est simple. Simplement, Satan l'a attaqué, c'est pour ça qu'il a souffert. Les amis de Job disent que c'est une punition pour son péché. Job lui-même dit, c'est parce que c'est l'univers qui est injuste. C'est Dieu qui truque le système. Elihu dit, c'est un avertissement préventif. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Oh, regarde, un Léviathan. Un petit peu plus complexe que ça, mais un peu spécial quand même. J'ai fait un petit tableau pour faire le récapitulatif. On ne va pas s'attarder dessus. Ce que j'aimerais que vous puissiez saisir, c'est qu'en fait, le livre de Job, il est volontairement flou, parce qu'il veut éviter de nous enfermer dans des schémas simplistes. Rappelez-vous, l'univers est beaucoup plus compliqué que ce que nous, êtres humains, nous pouvons comprendre. Il n'a pas envie, le livre de Job, de venir et nous dire « Il y a un juste qui souffre, voici la raison. Tac, tu peux l'encadrer, le mettre dans ta chambre. » Comme ça, à chaque fois que tu vois un juste souffrir, tu lis et tu dis « Ah oui, c'est bon, je sais pourquoi. » C'est plus compliqué que ça. Et les 5 réponses, elles ont toutes une tension où finalement elles sont un peu vraies et un peu fausses. Et si on ne fait pas gaffe, on peut tomber dans un extrême ou dans un autre. Ici, je vous ai mis les 5, mais on va en détailler 3. Ce qu'on peut voir dans nos églises des fois, aujourd'hui, au XXIe siècle, une spiritualisation excessive. Tous les mots, c'est spirituel. T'as ta machine qui tombe en panne. Ah, c'est Satan qui t'attaque. Ben non, pas forcément. Il ne faut pas avoir une négation des causes qui sont physiques, médicales, psychologiques. Et puis à l'inverse, on a le rationalisme absolu. Alors on peut tout expliquer. Il faut faire des recherches, des calculs, mais on peut tout expliquer. Il ne faut pas commencer à imaginer des trucs un peu bizarres. On peut aussi avoir la tension entre la religiosité et la légèreté. La religiosité, c'est avoir ce discours des amis de Job. Si tu souffres, c'est bien que tu as péché. L'évangile de prospérité à l'envers, vous savez. L'évangile de prospérité, c'est un problème, on en parlera peut-être une fois. La légèreté excessive. Bon, le péché, il est inévitable de toute façon, il ne faut pas s'en faire, tout le monde pêche. Ah, voilà, un de plus. De toute façon, Jésus est mort sur la croix, donc voilà, on dit pardon et puis c'est fini. Non, mais Dieu nous appelle à être un peuple saint. Il dit, soyez saints comme moi je suis saint. Une troisième tension, le relativisme total face au fatalisme. Le relativisme, ouais, de toute façon, c'est bon, Dieu finira par tout arranger, t'inquiète pas, ah, oh, c'est pas si grave. Non, il y a des choses graves. On ne peut pas tout relativiser. Et puis, le fatalisme, alors ça, c'est l'inverse, c'est les pessimistes. De toute façon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Le livre de Job nous invite à sortir de ces schémas simplistes et à exercer notre sagesse. Et vous le savez bien, notre sagesse, elle vient de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu nous donne de la sagesse. Il faut qu'on l'exerce. Alors, je pense que Job, le livre de Job, c'est un refus délibéré de donner une réponse simple. Et j'ai envie de vous donner un petit témoignage, parce que moi, j'ai passé une période aussi où je me posais une question, puis je n'ai pas eu de réponse. C'est qu'à posteriori que je me suis rendu compte pourquoi. Alors, je vous raconte rapidement. En 2022, j'avais terminé mon service militaire. Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. Alors, j'ai passé des mois à prier, pas eu de réponse. Bon, du coup, j'ai pris un peu une option par défaut. Je me suis inscrit à l'école d'ingénieur. Et pendant, à l'école d'ingénieur, je ne me sentais pas à ma place. Je ne savais pas ce que je faisais là. Du coup, je continuais à prier tous les jours. Seigneur, est-ce que je dois quitter l'école d'ingénieur? Seigneur, dis-moi, est-ce que je dois quitter l'école d'ingénieur? Je lui demandais tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Et j'étais convaincu qu'il allait finir par me donner une réponse. Il avait une grande persévérance dans la prière. C'est très bien d'avoir de la persévérance dans la prière. Et pendant des mois et des mois, pas de réponse, je ne comprends pas pourquoi. J'arrive à un stade où, bon, ça commence un petit peu à m'énerver, ça faisait un peu plus de 6 mois que j'étais à l'école d'ingénieur, que je ne savais pas ce que je faisais là. Et donc, je fais un espèce de lâcher prise. Je fais une prière, je dis à Dieu, si tu ne me réponds pas, ok, c'est d'accord, tu ne peux pas me répondre. Si tu veux, tu ne me réponds pas. Par contre, tu ne vas pas revenir me taper dessus si je prends la mauvaise décision. Alors, je décide de quitter l'école d'ingénieur. Et en à peine quelques jours, je vais prendre une série de décisions assez importantes pour ma vie, assez charnières. Donc, je quitte l'école d'ingénieur. J'ai décidé aussi de quitter l'armée pour m'inscrire au service civil, c'était le même jour. Et puis le soir, j'ai demandé à une fille de sortir avec moi, et puis c'est pour ça que j'ai l'annulaire un peu plus lourd aujourd'hui. En fait, je n'avais pas posé la bonne question à Dieu. Je lui demande, est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois partir? Ouais. Dieu, des fois, il n'aime pas trop donner des réponses comme ça. Je ne passais pas forcément du temps avec Dieu, je ne cherchais pas sa face, sa présence. Je voulais une réponse pour ne pas me tromper. Et Dieu, il était là constamment auprès de moi et je ne l'ai pas remarqué parce que j'ai pris cette décision selon ma sagesse ou celle de Dieu et tout s'est déroulé dans ma vie sur plusieurs années pour que je me retrouve ici devant vous ce matin, très heureux. Avec tout ce qu'il faut. Et en quelques jours, ces décisions, elles ont complètement changé ma vie. Alors, Dieu ne m'a peut-être pas donné de réponse claire, mais il était auprès de moi. Donc, ça m'a appris, ça m'a un peu remis à ma place, ça m'a appris à faire confiance à Dieu d'une autre manière. Petit résumé, petit récapitulatif. Job refuse volontairement de donner une réponse unique au pourquoi, mais il donne des réponses claires à d'autres questions. Lesquelles? On va faire un petit tour rapide. L'importance de la connaissance personnelle de Dieu. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ça, c'est une réponse claire. Il n'y a pas de doute, le livre de Job, il nous l'enseigne. Alors on peut tous chercher à avoir une connaissance plus profonde et plus personnelle de Dieu. Deuxièmement, que nos questions sont légitimes. n'est pas parce qu'on souffre, qu'on n'a pas de réponse et que Dieu ne donne pas forcément de réponse qu'on n'a pas le droit de les poser. Job n'a pas été repris et puni pour les questions qu'il a posées, voire même les accusations. Alors, quand même, à utiliser avec caution. La souveraineté et la bonté de Dieu. Mais oui, Dieu est beaucoup plus grand que nous, mais il ne faut pas oublier qu'il nous aime. Et enfin, la persévérance dans la foi malgré l'incompréhension. Et là, il y a cette citation de Job 13,15 qui est très très forte. « Même s'il me tuait, même si Dieu me tuait, je m'attendrais encore à lui. » Un exemple de persévérance qui donne des frissons. Je vous propose de passer à des applications pratiques. Alors ça va vite, vous êtes toujours avec moi ? S'il n'y a qu'un seul truc que vous devez retenir de cette prédication, c'est maintenant que ça se passe. Alors soyez bien attentifs. Hein. Là, j'en vois un qui dort. Là. Alors, côté gauche, si actuellement tu vis la souffrance, peu importe le niveau. Je pense que personne ne souffre comme Jésus ou comme Job a souffert. C'est des exemples extrêmes. Mais si tu vis la souffrance d'une manière ou d'une autre, voici peut-être quelques conseils, peut-être quelques phrases qui vont te faire du bien. Écoute-les bien. Premièrement, ta souffrance, elle est légitime. Même si c'est quelque chose de bénin, même si quelqu'un a vécu la même chose que toi et qu'il n'a pas souffert, si toi tu souffres, c'est légitime. D'accord ? Il ne faut pas oublier. Méfie-toi des réponses simplistes. Parfois, on essaye. Les gens, c'est naturel. Hein. Il y a un problème, ils veulent trouver une solution, alors ils vont donner leur avis. Et parfois, c'est des réponses qui peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, il faut un peu s'en méfier, mais en même temps, il ne faut pas non plus être trop atteint par ces réponses simplistes. Cherche la rencontre avec Dieu, pas seulement la réponse. Dieu ne donne pas toujours la réponse à ton pourquoi. Et ce n'est pas parce qu'il ne donne pas la réponse qu'il n'est pas auprès de toi. Et l'important, c'est d'être dans ce cœur à cœur. La restauration finira par venir. Ça, je crois que c'est une promesse universelle dans la Bible. En tout cas, j'en suis convaincu. Accroche-toi à cette promesse de restauration. Et puis enfin, n'hésite pas à chercher de l'aide à l'Église. On est tous des frères et sœurs du même corps de Christ. Et à l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont traversé des épreuves difficiles, qui ont de l'expérience, qui peuvent prier pour toi, qui peuvent discuter, qui peuvent t'aider. On a également à l'Escale, ici, le groupe qui s'appelle JIRÉ. C'est le groupe d'écoute et de... Comment ça s'appelle ? Écoute et accompagnement. Vous pouvez prendre contact avec un des membres de l'équipe pastorale si vous avez besoin d'écoute et d'accompagnement. Et puis, à la fin du culte, si ce message vous a touché, il y a des équipes de prière qui seront à disposition. Moi aussi, Luc, on pourra prier pour vous. N'hésitez pas à chercher de l'aide. Maintenant, pour ceux qui accompagnent ceux dans la souffrance, un premier conseil, soyez pas comme les amis de Job. Non, franchement, soyez pas comme les amis de Job. Cherchez pas à alourdir le fardeau des gens. Aidez-les à le rendre plus léger. Et puis, parfois, la présence, elle vaut mieux que les paroles. Quand il y a une grande souffrance, parfois, il faut juste faire silence, être présent et aimer. Pas besoin de le dire. Quand on est en souffrance et quelqu'un est à nos côtés, on se sent aimé, on le sent. Ça nous aide. Et puis quelque chose pour tous, si vous êtes ni en souffrance et vous accompagnez personne dans la souffrance, eh ben, cultivons un peu l'émerveillement de Dieu et de ce livre de Job qui est un peu bizarre. Mais quand on creuse, il nous apporte des réponses vraiment cool. Acceptons un peu le mystère. On ne sait pas tout et ce n'est pas grave. On a le droit de ne pas savoir, on a le droit de ne pas comprendre. Et persévérons dans la foi. Ça, c'est important. Alors, on va arriver à la conclusion. La question que je te pose, c'est toi, t'en es où aujourd'hui ? Peut-être que tu es dans la souffrance. Alors, je t'encourage à chercher la face de Dieu. Peut-être que tu es aux côtés d'un souffrant, donc sois présent, sois pas un théologien, sois juste présent. Donne de l'amour. Peut-être que tu es actuellement dans le questionnement. Tu as des questions difficiles, tu n'as pas de réponse, ce n'est pas grave. Continue à chercher et concentre-toi pas forcément sur la réponse, concentre-toi sur Dieu. On va passer à un temps pratique. Je sais que certains ne sont pas les plus grands fans de ça, mais c'est quand même important, on est dans l'Église. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on sache la personne à notre gauche, à notre droite, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle traverse. Alors de manière toute simple, je vais vous inviter à former des groupes de 3 ou 4 personnes, peut-être 2 si vous êtes plus à l'aise. Et je vous invite à prier pour 3 points, les 3 mêmes, vous commencez à comprendre. Soit vous êtes en souffrance, alors on prie pour ça. Soit vous êtes aux côtés d'un souffrant, c'est difficile peut-être, on prie pour ça. Ou alors, vous pouvez simplement prier pour reconnaître la grandeur de Dieu. C'est compris ? Alors, pasteur, je leur donne combien de temps ? 6 minutes. Vous avez 6 minutes pour prier. Alors, c'est parti.
Voilà, les 6 minutes ont passé largement. Je vous invite à terminer maintenant vos prières, vos petits groupes, de regarder par là. Content de voir, de vous voir parler, discuter. C'est toujours un petit défi parce que je sais que ce n'est pas toujours facile pour certains, mais je continue à le répéter. Je trouve que ce ne serait pas juste ou pas normal qu'on n'ait pas pris le temps de regarder la personne qui est à droite ou à gauche de nous, puis qu'on vienne le dimanche matin et avec comme des œillères, et puis on reparte comme ça. Puis on a dit bonjour à personne. Alors, ce serait un peu bizarre après de dire qu'on est une famille si on ne prend pas le temps aussi de partager et d'oser partager, d'oser s'encourager. Merci à Mathias pour ce message. Et je trouve magnifique parce qu'en fait, avec nos stagiaires, vous voyez aussi les dons qu'ils ont mis en eux, différents. Et voilà, je trouve que c'est tellement beau, une Rachel qui a un côté prophétique, je vais le dire. Un Mathias, on voit quelque part son don d'enseignement en une prédication, nous tracer comme ça le livre de Job. Et c'est tellement beau et ça doit nous encourager aussi de former. Et c'est vraiment notre désir d'être aussi une église qui forme, qui lève des ministères et avec cette pluralité, cette différence, ces richesses que Dieu a mis en eux. Alors voilà, sois encouragé Mathias, merci pour ce que tu nous as apporté ce matin. Sois encouragé Rachel aussi, qui est là au fond. Et ouais, voilà, qu'on puisse vraiment prier pour eux, hein, parce que c'est un challenge. Ils ont envie de se lever, de servir le Seigneur, et on veut vraiment être là pour les porter, les encourager. Alors, vous avez été édifiés au travers de tout ça? Vous avez... Yes, super, merci. Bien sûr, comme tout bon évangélique, on dit toujours, on applaudit le Seigneur, et puis pas l'homme, hein, c'est Dieu qui inspire. Non, mais je rigole. Mais c'est... merci pour ton travail, Mathias, c'était super. Alors maintenant, on va passer à la page suivante, c'est-à-dire les annonces pour terminer. Mais il y a des annonces, on a voulu attendre aujourd'hui pour vous faire deux annonces importantes. Donc, ce sera, je ne sais pas si c'est plus long que d'habitude, mais en tout cas. Alors, il y a trois personnes qui vont se préparer pendant le temps d'offrande. Merci, c'est bien, il y a déjà le slide. Pendant le temps d'offrande, il y a trois personnes qui vont venir pour parler du parcours Alpha. Donc, vous pouvez déjà vous approcher les trois. Donc, Annabella, Philippe et puis Martine. Et pendant ce temps, les offrandes peuvent circuler. Merci encore pour votre soutien, votre générosité, pour l'avancement du royaume de Dieu, du règne de Dieu ici, sur la terre. On veut être bénir largement. Voilà, je vous invite, vous pouvez venir autour de la table de bar. Je ne sais pas si vous arrivez à vous tenir tous les trois là. Hein ? Ouais, c'est... Voilà, oui. C'est la sécheresse, là. Hein. S'il vous plaît. Voilà, donc, parcours Alpha, on peut mettre le slide du parcours Alpha. On va donc débuter ce parcours Alpha le 28 octobre, mardi soir. Et puis, voilà, donc c'est toujours le même principe avec un repas et ensuite une vidéo qui présente vraiment l'évangile, qui présente Christ. Et puis du coup, eh ben, je vous propose de simplement vous présenter courtement et puis nous parler de votre expérience Alpha. Donc comment avez-vous connu Alpha? Voilà. On commence avec Annabelle.
Voilà, mes frères et mes sœurs. Et j'ai connu le groupe Alpha, c'est ici à l'Escale qu'on m'avait proposé de le faire. J'étais très intéressée car j'avais soif de la parole de Dieu et je voulais comprendre parce que ce n'était pas vraiment clair dans ma tête. Et puis grâce à ce cours, j'ai quand même réussi à comprendre, à croire en Dieu, à croire à sa parole. Et ça m'a permis de faire un petit changement dans ma vie. Et après, j'ai eu le baptême pour compléter. Donc maintenant, je suis comblée. Grâce au groupe Alpha, je propose à tout le monde qui n'a pas fait ce cours de vous encourager de le faire, parce que c'est des portes qui s'ouvrent pour beaucoup de personnes qui sont la foi, mais qu'il y a des doutes quand même. Donc ce cours Alpha, ça va vous donner vraiment de la puissance du Seigneur. Merci.
Moi, je m'appelle Martine. Je suis mariée à Jean-François qui est là-bas au fond. Je vous dis juste qu'on répond à toutes les questions en même temps, c'est ça? Comment j'ai connu Alpha? Alors moi, j'ai connu Alpha après avoir fait le cours Alpha. Je m'explique parce que je suis obligée de vous expliquer ça parce que quand on s'est marié, quand on est allé vers le pasteur, j'étais pas chrétienne et le pasteur m'a dit: serais-tu d'accord de faire une formation sur la foi? Et moi j'ai dit oui parce que je suis une personne curieuse et puis je me suis dit au moins je connaîtrais ce que Jean-François connaît parce que j'avais aucune connaissance de la foi, rien du tout que ce que j'avais quand j'étais petite. Et c'est par la suite, mais vraiment après le cours, que j'ai su que c'était un cours Alpha. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis marié à Peggy. J'avais noté plein de choses, mais je crois que je vais laisser tomber. Pour dire que j'étais jeune depuis un peu plus longtemps que certains d'entre vous, c'est important pour moi parce que des fois on se dit, oh, on a quand même des années de bouteille, refaire le cours Alpha, pourquoi? Enfin voilà, c'est gentil, mais bon. Et puis, en fait, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais parce que depuis je suis à la retraite, j'ai dit, ben écoute, moi, je sais pas, j'aime bien ce cours Alpha, enfin j'entends bien plein de choses bonnes, mais j'aimerais le vivre de l'intérieur pour pouvoir le conseiller ou le partager à d'autres. Et puis bon, ça c'est des choses, il faut faire attention à ce qu'on demande à Dieu, hein, parce qu'il répond. Tout d'un coup, Peggy me dit, ah, mais j'ai un cousin qui aimerait faire le cours Alpha, tu veux pas l'accompagner, parce que c'est un gars. Puis je dis, ok. Bon, ben, ok, je m'inscris. Seulement, ce gars, je ne savais pas qu'il était dans la restauration, puis il est venu qu'une fois, puis moi, j'ai continué, parce que c'était tellement génial, ce groupe. Puis on mangeait tellement bien, puis il y avait une telle ambiance. Voilà, que j'ai continué. Et puis, j'avais déjà entendu parler du groupe Alpha depuis longtemps. Peggy avait accompagné quelqu'un il y a bien des années. J'ai eu l'occasion de faire une soirée pour voir ce que c'était. Et puis là, j'ai découvert, c'était vraiment... Cette fois-là, c'est-à-dire l'année passée, c'était vraiment... ils ont tout revu le cours et puis c'est vraiment quelque chose de top au niveau de la qualité, au niveau de ce qui est partagé. C'est pertinent, enfin c'est vraiment intéressant et actuel.
Encore deux courtes questions. Donc Annabella, qu'est-ce qui t'a touché spécialement dans ce parcours? Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans ce parcours Alpha?
C'est d'avoir un groupe, on était assez nombreux quand même. C'est le partage, les témoignages, d'être à l'écoute de toutes ces personnes qui ont souffert. Et puis que je me suis trouvée qu'il n'y avait pas que moi qui souffrais, il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation que moi. Ce cours Alpha est vraiment pour souder les personnes. J'ai appris à la prière. La prière, c'est très important de s'aider les uns et les autres. Enfin, voilà.
Et puis Martine, j'ai encore une question. Quel a été ton défi? Puis c'est intéressant, en tant que tu n'étais pas converti à ce moment-là. Annabelle, peut-être Annabelle pas vraiment non plus. Mais voilà, quel a été ton défi dans ce cours Alpha?
Moi, je n'ai pas trouvé vraiment de défi. Il fallait aller une fois par semaine. Donc je suis allée faire mes cours. Le premier, j'étais avec mon mari. Le deuxième, j'étais toute seule. Et puis, c'est là que Dieu m'a touchée. C'est quand j'étais toute seule. Et moi, je dirais, les défis viennent après. Finalement, on connaît Dieu. Moi, ce qui m'a touchée dans le cours, j'étais toute seule. Au début, on était trois. Après, je me suis retrouvée toute seule dans ce cours. C'est vraiment Dieu qui est venu me chercher, qui m'a touchée. C'est Dieu qui m'a touchée. Et les défis viennent par après, quoi. Après, il faut l'obéissance.
On va gentiment terminer l'entretien. Donc, est-ce qu'il y a une dernière chose à ajouter? Oui.
Moi, j'ai envie de vous dire, parce que... comment dire ça? Oui. Ce que j'ai trouvé excellent aussi dans ces cours, moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt du matin que du soir. Et puis, j'ai beaucoup apprécié, puis je tiens à le relever, que le programme, il est vraiment rigoureux au niveau des horaires. Et puis ça, c'est important. Ça commence à telle heure et ça finit à telle heure. Je n'ai pas toujours vécu ça partout. C'est pour ça que je tenais à le relever. Parce que c'est un bon point, pour moi en tout cas. Et puis, on a vécu des moments forts quand même dans ces camps. Moi, j'ai été vraiment touché par ces moments de prière, par cette confiance, cette confiance qui a régné très rapidement dans tout le groupe. Et puis, on a été, au niveau des défis, on a aussi été défiés, peut-être des plus anciens dans la foi, par les questions que les autres posaient, qui étaient des questions pratiques de aujourd'hui. Ce n'était pas il y a 10 ans, j'ai eu quelque chose. C'était aujourd'hui, j'ai ça comme problème. Comment est-ce qu'on fait? Et puis là, on était vraiment une équipe. On a vécu des trucs, mais vraiment géniaux.
Non, je crois que c'est bien comme ça. Donc, vous avez compris que les parcours alpha, le parcours alpha, c'est génial. Hein, vous l'avez bien compris. Et puis, donc, vous y êtes invité. Vous êtes aussi invité à inviter quelqu'un. C'est encore mieux parce que, bien sûr, que ça peut rafraîchir votre foi, vos connaissances, vos fondements bibliques. Mais l'idée, bien sûr, c'est de venir avec quelqu'un qui se pose des questions, comme c'était le cas pour Martine, comme c'était le cas pour Annabella. Et on est encouragé, en fait, par les fruits que ça porte. Vu que beaucoup se convertissent, beaucoup viennent à Jésus, beaucoup passent par les eaux du baptême à la suite de ce parcours. Donc c'est magnifique. Et on vous encourage à être là peut-être pour accompagner quelqu'un dans un premier temps. Puis j'aime bien ce que Martine a dit, c'est que quand elle a vécu quelque chose, elle était finalement plus avec, Jeff était plus là à côté d'elle. Des fois, il faut aussi être un peu seul puis prendre ses propres décisions. Mais la personne peut être là, vous pouvez être là pour accompagner quelqu'un dans les 1, 2, 3 premiers cours, puis après, vous laissez la personne aller seule. Voilà, donc on vous encourage, il y a 3 inscriptions actuellement, on n'a pas un chiffre en tête, on n'est pas en train, on fait pas du, voilà, on ne gagne rien sur qu'il y ait 10 ou 15, mais simplement, ceux qui doivent être là soient là. C'est vraiment notre prière, et que ce soit un outil entre les mains de Dieu. Alors merci beaucoup pour votre petit témoignage. Et puis maintenant, on va passer à un deuxième événement qui se produira au mois de novembre. C'est ce parcours Vivre Libéré. Et pour moi, c'est un peu l'étape d'après. Il y a le parcours Alpha, on fait des premiers pas avec Dieu, etc. Et puis, il y a ce parcours Vivre Libéré qui vient vraiment toucher aussi des racines dans nos vies, des choses à quelque part qu'on a besoin d'être libéré. Exemple, la colère. Exemple, le rejet. Et puis, ces choses, des fois, elles sont là depuis longtemps. Puis, on les réprimande, puis on s'en occupe jamais. Et pour moi, ça, c'est un parcours que vraiment tout chrétien est appelé à faire une fois dans sa vie. Alors, ce n'est pas la dernière fois, ce n'est pas l'unique fois ce mois de novembre, et puis sinon, on ne sera plus jamais. Mais c'est une occasion, là, et il y a vraiment des temps aussi, donc un temps de prière personnel pour chacun, avec des équipiers de prière, de l'écoute, on écoutera vraiment Dieu pour vous, avec vous. Voilà, donc c'est 2 vendredis soirs et 2 samedis, donc je l'ai déjà dit, c'est un peu plus conséquent, mais je vous propose juste d'écouter le petit témoignage. Vous avez les flyers à la sortie, mais on écoute ce petit témoignage qui peut nous encourager.
quelle autorité a-t-on? Pourquoi vivons-nous certains blocages? Et surtout, comment en être délivré? Quels sont les outils, les moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir vivre libre, juste comme Jésus l'avait prévu? Vivre libéré, c'est plus qu'un cours. C'est un parcours qui nous transforme. C'est un parcours qui nous fait découvrir et redécouvrir les vérités de l'Évangile et qui devient un style de vie. Il est composé d'enseignements, il est composé d'ateliers de travail personnel ainsi qu'un rendez-vous avec des équipiers formés qui prendront un temps d'écoute et de prière pour chaque participant. Vivre libéré, en résumé, c'est comme les Galates l'ont dit, c'est que Christ nous a affranchis pour être libres et pouvoir vivre librement, pleinement, et aussi pour nous-mêmes, mais aussi pour le royaume de Dieu, découvrir sa destinée, qui on est en Jésus et pour Jésus, et le faire connaître.
Voilà, merci beaucoup aussi à la technique d'avoir assuré pour ça, c'est super. Donc, je crois que c'est très clair, il n'y a rien besoin d'ajouter, mais on vous encourage, si vous pouvez le vivre avec nous cette année. Ensuite, je n'ai pas beaucoup d'autres annonces, donc je l'ai dit, il y a le repas pâte tout à l'heure, donc voilà, vous l'avez, je crois, compris un peu, c'est mon anniversaire mardi, j'ai 40 ans, enfin, je l'attendais tellement. Alors c'est un modeste repas que j'aimerais vous offrir, c'est Raphaëlle qui le fait. C'est moi qui vous l'offrirai. Et puis j'aurais voulu tous vous inviter à mon anniversaire, donc j'ai dit bon, on fait comme ça, c'est top. T'inquiète Rolf, j'ai pas oublié. On peut passer à la suivante. Donc il y a un autre repas qui va venir, c'est le 26 du 10, avec un bon papé vaudois préparé par les Eberly. Ce repas, il sera payant à 15 francs par personne dès 12 ans. Et puis c'est aussi une manière de soutenir le ministère des Eberly Jesus Ministries. Donc merci de vous inscrire. Et puis une dernière annonce hyper importante, c'est le Festive Louange. On l'a fait déjà plusieurs fois, mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager parce qu'on est dans un temps charnière en fait. On a peu vendu de billets. Et puis c'est vraiment un peu une déception, une tristesse d'un côté parce qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en place. Mais on est au point que ce soir, on va prendre une décision si on doit annuler un des concerts. Et puis ben, annuler, ça représente de l'argent. Faire avec le risque qu'il n'y ait pas assez de monde, c'est aussi une perte financière. Donc on est un peu dans ce combat entre la foi et la sagesse, quoi. Et voilà, donc si vous n'avez pas pris vos billets, vraiment prenez-les parce qu'on a besoin de voir encore les ventes doubler d'ici ce soir, alléluia. Et moi, j'ai fait des WhatsApp aussi à des amis, vraiment pour le samedi soir, c'est du gospel. Il y a tellement de gens autour de vous qui aiment le gospel en fait. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne connaissent pas Jésus, mais ils aiment le style gospel. Et ce concert avec un orchestre philharmonique, avec un chœur, le chœur One Step, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, là, c'est hyper facile d'inviter vos voisins, des amis, parce que vraiment, le gospel, c'est un style de musique qui parle. Donc, voilà, je vous encourage j'espère que voilà, toutes les églises font pareil ce matin. On vous encourage sans pression. Vous n'allez pas sauver tout. Mais si vous avez prévu d'y aller, si vous avez envie d'inviter quelqu'un, ben, vraiment, faites-le pour nous aider à prendre la meilleure décision possible ce soir. Voilà. Et puis encore une petite chose. Donc on est une équipe de l'escale. On est 18 à partir le 14. Donc le culte de la semaine prochaine. Ouais, je ne l'ai pas dit vraiment clairement. La semaine prochaine, le 12 octobre, du coup, il n'y a pas de culte ici. On est à la Marive. Donc c'est un culte en commun, un culte œcuménique. Vous me verrez aussi à la présidence de ce culte. Voilà, on se rassemble à la Marive. Du coup, c'est pour ça qu'on fait déjà aussi cette annonce, c'est qu'on ne va pas se revoir d'ici là. Le 14 octobre, on est 18 à partir au Togo et au Bénin, et on vous sollicite aussi pour prier pour nous. Voilà, et puis la prochaine date du jeûne et prière, vu qu'on ne sera pas là non plus la semaine prochaine, c'est le lundi 13, lundi 13 octobre, avec deux réunions, le midi et le soir. On vous encourage aussi à prendre un temps de jeûne et de prière. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vois que le temps a largement passé. Et je termine avec une parole. Je vous invite à vous lever pour cela. parole en 2 Thessaloniciens 3, le verset 5, qui nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de journée. Amen.